E-Radio, l'invité de la rédaction.
Ce lundi 24 janvier est la journée internationale du sport féminin. À cette occasion, Yannick Souvré est l'invité de cette édition. Avec 243 sélections avec les Bleus, 3 Euroleague et 8 titres de championne de France avec Bourges, Yannick Souvré possède sans nul doute l'un des plus beaux palmarès du basket féminin français. Ancienne capitaine de l'équipe de France, championne d'Europe et directrice actuelle de la Ligue féminine de basket, elle revient sur son parcours et livre ses aspirations pour l'évolution de ce sport. Vous avez été élevée donc dans une famille bercée par le basket. Est-ce que ça a été un moteur pour vous lancer ?
Ben moi, oui, complètement. Bien sûr, ça a été un environnement très familier dans lequel j'ai baigné depuis toute petite. Il peut y avoir, je pense, pour certaines personnes, de la répulsion si la personne ne s'y retrouve pas. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, donc ça m'a plutôt dynamisé, mis le pied à l'étrier qu'alourdir un peu ou m'empêcher d'avoir une ouverture d'esprit sur le reste.
Et comment étaient vos débuts dans le milieu sportif ?
Il suffit d'anciens basketteurs internationaux et d'une mère qui joue au basket au haut niveau également. Donc j'ai eu toujours l'impression d'évoluer sur un terrain de basket. Bien évidemment, à ce moment-là, quand j'étais toute jeune, j'ai jamais pensé que j'en ferais un métier. Mes parents m'ont aussi poussé à faire d'autres sports. Donc j'ai fait 5 ans de gymnastique, j'ai fait 3 ans de tennis. Voilà, le sport faisait partie de notre vie et de ma vie en particulier jusqu'à mes 14 ans où j'ai décidé de partir en centre de formation.
Et vous avez notamment évolué pendant une saison aux États-Unis. Comment est-ce que c'était ? Est-ce que le regard sur les joueuses était différent qu'en France ?
Oui, j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, ça se faisait très très peu, de pouvoir partir et bénéficier d'une bourse, parce qu'aux États-Unis, les universités sont très très chères. Donc moi, j'ai pu intégrer une université en Californie et voir un petit peu pourquoi ce pays est le pays du basket. Il y a plus de 30 ans maintenant, c'était déjà extrêmement tourné vers le résultat, l'intensité. Enfin, on s'entraînait, c'était très dur. Bon, peut-être que la fac dans laquelle j'étais était quand même réputée pour ça aussi, avec un entraîneur qui faisait beaucoup, beaucoup travailler. Voilà, j'ai voulu comprendre que vous soyez une femme, une jeune ou quoi, quand vous faites du sport pour votre fac, mais du sport tout court, il y a une vraie reconnaissance qu'on n'avait certainement pas en Europe à ce moment-là, oui.
Vous avez donc avec Bourges notamment remporté la Coupe Ranchetti, donc obtenant le premier titre donc de la Coupe d'Europe de la Fédération française de basketball. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez remporté cette coupe ?
Ben, la Ranchetti, c'est ce qu'on appelle qui s'appelle maintenant l'Eurocoupe. C'est la petite Coupe d'Europe, puisque la grande Coupe d'Europe, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Ligue des Champions, qui s'appelle l'Euroleague maintenant. Mais c'est vrai qu'on a été la première équipe à la gagner. Bon, à une époque, moi, quand j'ai commencé, c'était des compétitions où on n'arrivait pas à gagner ça. Donc, ça a été une fierté pour le club pour lequel je jouais, Bourges, pour la ville, mais également un peu au niveau national où, même si sur le moment, on ne se rend pas toujours compte qu'on rentre dans l'histoire, malgré tout, on se dit que ce qu'on a fait, c'est quand même... voilà, on a cassé des barrières. Peut-être un plafond de verre en se disant « Mais non, on n'y arrivera jamais. » Mais ben, si, on y est arrivé. Et je pense que ça nous a permis cette victoire en Ranchetti. Après, derrière, 2 ans après, de gagner la première fois la Coupe des Champions, l'Euroleague. Mais à l'époque, ça s'appelait la Ligue des Champions, puisque c'était chaque champion de chaque pays. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'avec Bourges, en plus, on l'a gagné 3 fois. Et derrière, ça a mis le pied à l'étrier de clubs comme Valenciennes qui l'ont gagné ensuite, quoi.
Vous êtes un peu rentré dans l'histoire grâce à ça.
Je pense qu'on a permis au basket féminin français de rentrer dans l'histoire européenne, oui. Alors, il ne faut pas non plus oublier ce qu'avaient fait les joueuses du Clermont Université Club, qui pendant de très nombreuses années sont allées en finale de cette fameuse Euroleague, mais qui s'est confrontée à une joueuse qui jouait, une joueuse lettonne qui jouait pour les pays des clubs russes, du RSS à l'époque, qui s'appelait Semenova et qui mesure 2,20 m, et qui n'ont jamais pu gagner parce que c'était un mur infranchissable. Nous, on n'a pas eu Semenova en face. Bon, il y a eu par moments notamment une joueuse qui, polonaise qui s'appelait Nidek, qui était 2m17, mais bon, ça avait bien grandi, bien évolué, et on a été effectivement la première équipe féminine avec Bourges à gagner ce titre, mais on a été la première équipe de sport co, que ça soit foot, basket, rugby, handball ou autre, à gagner deux fois cette Ligue des Champions. Voilà. On est les premiers, plus exactement. Le premier club ou les premières joueuses, comme on veut.
Lors d'une émission de Thierry Ardisson, vous disiez qu'il est très difficile en tant que sportive française de combiner le basket et la vie personnelle. Alors que les joueuses de l'Europe de l'Est, par exemple, ce sont plutôt les conjoints qui se mettent au service, entre guillemets, de la carrière de leur femme.
C'est il y a un certain nombre d'années quand même, hein, où cette émission, oui, c'était suite à notre titre en 2001 avec l'équipe de France. Bon, c'est il y a 20 ans, ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, les basketteuses, pour parler d'elles, mais les autres sportives professionnelles de sport collectif, ben, elles ne s'arrêtaient pas pour faire un enfant. Voilà. C'est vrai que c'était pas dans les habitudes. On s'aperçoit que c'est en train d'évoluer. On s'aperçoit aussi que, à l'époque, c'était les joueuses des pays de l'Est laissaient souvent leur enfant au pays et venaient travailler en tant que basketteuse professionnelle dans le championnat français. Là, on parle d'autre chose. C'est-à-dire que c'est des joueuses françaises, en l'occurrence, qui mettent leur carrière de côté, le temps de faire un enfant et de revenir après. Ça, c'est assez nouveau. On peut voir ça depuis quelques années à peine.
Voilà, c'était il y a quelques temps également aussi. Au tennis, par exemple, les joueuses touchaient la même prime que leurs homologues masculins, ce qui n'était pas le cas dans le basket. Comment est-ce que ça a évolué actuellement sur cette question-là ?
Il y a deux choses. C'est que en général, vous êtes payé, je ne vais pas comparer avec le tennis, mais il y a deux façons de fonctionner. C'est-à-dire que vous avez des primes liées aux résultats que vous avez, d'accord ? Et là, en général, ce ne sont pas les mêmes primes, parce que ce ne sont pas non plus les mêmes produits. D'accord. Donc, quand vous vendez un match de l'équipe de France masculine dans une salle de 15 000 places et que vous le faites pour un match de basket féminin, vous remplissez pas une salle de 15 000 places. Donc, vous faites ça dans une salle un peu plus petite. Donc, automatiquement, l'investissement et le retour sur l'investissement ne sont pas les mêmes. Par contre, là où ça a bien évolué, c'est que, en ce qui me concerne, j'étais capitaine de l'équipe de France et j'avais demandé en tant que capitaine à ce que les indemnités journalières, c'est-à-dire le travail au quotidien de la joueuse, soient indemnisées à la même hauteur que les basketteurs de l'équipe de France. Et c'est maintenant le cas, en l'occurrence, ça a été le cas après un certain nombre d'années de bataille, ça a été le cas au terme de ma carrière en 2003.
Et est-ce que tout cela n'est pas un problème finalement de visibilité, comme les hommes sont plus diffusés par les médias est-ce que
oui.
C'est pas aussi cette question-là qui fait qu'il y a ces inégalités ?
Bien sûr, c'est-à-dire que c'est toujours la complexité du problème, c'est que c'est le quin qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous médiatisez pas, ben, votre produit, il peut pas être plus performant médiatiquement parlant. Je parle, hein, on parle pas de sport là, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc s'il est pas visible, ben, il va moins rapporter. D'un autre côté, quand il rapporte moins, vous avez tendance à le faire passer peut-être un peu plus au second plan parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Donc, du coup, vous vendez ce qui vous rapporte le mieux. Et le but, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre pousser un produit qui a besoin d'être visible pour pouvoir vous rapporter plus, peut-être effectivement, par moment, un peu au détriment de celui qui vous rapporte un peu plus. Sinon, l'écart se creuse. Et puis surtout, le produit qui rapporte moins, il ne rapportera jamais plus.
Donc c'est un voilà. Cercle vicieux finalement.
C'est un peu là-dessus que, en tout cas, moi, à mon niveau, je me bats, c'est pas une bagarre, mais je prône l'investissement que l'on doit avoir pour faire que ce produit qui est moins médiatisé soit, il y a un effort supplémentaire qui soit fait.
Récemment, il y a l'équipe féminine norvégienne de beach handball qui a été sanctionnée pour avoir joué en short plutôt qu'en bikini. Oui. Quel est votre avis sur cette question ?
Alors. C'est bon, je vais pas commenter le beach volley parce que je sais ce que c'est, mais je vais pas parler de choses que je connais pas. Moi, quand j'ai travaillé à la Fédération européenne de basket, j'ai poussé à ce qu'on ait une tenue appropriée pour le basket féminin et surtout identifiable en tant que basket féminin européen et d'avoir des tenues qui, d'un, je trouvais plus approprié au basket, c'est-à-dire pas des shorts qui vont au-dessous du genou parce que de toute façon ça vous gêne pour jouer, sans que ça soit pour autant des strings dans lesquels c'est peut-être extrêmement désagréable de jouer, mais quelque chose qui soit identifiable. À une époque, le basket féminin en Australie, la Ligue nationale, jouait avec des combinaisons. Bon, on aime, pas, c'est bien, c'est pas bien, mais au moins chaque fois que vous voyez un match à la télé, vous savez ce que c'était. C'était très identifiable. Mmh. Ceci étant dit, on est dans une société d'image. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas question de promouvoir le corps des femmes, mais on s'aperçoit malgré tout que dans le sport masculin a beaucoup fait évoluer ses tenues, et je pense en priorité au rugby, pour une question technique, certes, puisque les maillots sont très moulants et quand ils collent à la peau, vous avez du mal en tant qu'adversaire à les attraper. Mais de l'autre côté, il faut pas se tromper quand même. Hein. C'est aussi pour une question d'image et de mise en beauté du corps de l'athlète. Pas d'un côté sexuel, mais d'un côté sportif. L'athlète, en général, a quand même des qualités physiques qui font que c'est une belle image. Donc, il ne faut pas non plus se tromper de combat. Il n'est pas une question de sexe, c'est une question d'image. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'il faut tout faire pour d'image ? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut y faire attention ? Bien sûr que oui.
Donc, c'est apprendre à nuancer.
C'est à nuancer, oui, c'est à nuancer. Il n'est pas question de se mettre en maillot de bain parce que finalement, ça fait vendre, parce que ce n'est pas approprié déjà au sport. Première chose, et ça c'est la priorité. Et de deux, est-ce que c'est ça qu'on veut promouvoir ? Non, mais est-ce que pour autant on doit considérer que les gens s'habillent comme ils veulent, ils font n'importe quoi ? Bon, nous, je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant des protections médicales. Il y a aussi des modes, on va pas s'en cacher, où les basketteurs et les basketteuses mettent des protections au niveau des bras. Bon, voilà, ça. Je ne sais pas quelles sont les vertus, mais enfin, peu importe, ça ne se discute pas. Bon, ben, nous, on demande à ce que, tant qu'à faire, toute l'équipe soit uniforme. On ne va pas faire du bariolé. Il faut quand même donner une image de professionnalisme, une image un peu classe du sport que l'on veut vendre. Parce qu'on le vend. Il faut toujours trouver un juste milieu, mais il ne faut pas non plus croire que le sport, ça se vend que par le sport. C'est une image aussi qu'il y a à donner. Et donc, il faut s'y attacher et il faut essayer de s'en occuper sérieusement de façon professionnelle, mais également par rapport au regard de la société.
Et quel a été le déclic pour que vous meniez ces combats-là, justement ?
Quand j'avais 20 ans, j'étais à Paris, je vois Paris, et je ne comprenais pas. C'était l'époque où Marie-Josée Pérec gagnait le 400 mètres, et en face, il y avait Michael Johnson qui gagnait le 400 mètres comme elle, d'accord, avec des résultats... Les deux étaient très comparables dans leurs résultats et sur vraiment la même discipline. Et j'entendais constamment parler les journalistes sportifs en disant « Ah, les jambes de Marie-Josée Pérec !» C'est vrai qu'elle avait des jambes exceptionnelles, magnifiques, superbes. Et j'ai dit « Mais jamais j'entends dire « Ah, les jambes exceptionnelles de Michael Johnson !» Et ça m'irritait. Ça m'irritait vraiment parce que je trouvais dommage qu'on ait besoin de parler du corps féminin et qu'on ne le fasse pas sur le corps masculin. Et donc, du coup, c'est vrai que... Bon, je me suis d'une certaine façon essayé de rebeller, puis après j'ai compris aussi en vieillissant que ben, il fallait aussi exploiter ça, c'est-à-dire que on va pas non plus refuser de dire qu'on est des femmes. Pourquoi ? Quand elles sont basketteuses, ce sont aussi des femmes avec plein de qualités, pas que des qualités physiques bien évidemment, mais aussi des qualités physiques, des qualités de proximité, des qualités, enfin voilà, on est pas, les hommes et les femmes sont pas égaux sur tout, et ben jouons aussi sur nos différences, pourquoi pas, voilà.
Depuis quand est-ce que vous avez observé ce changement ?
Ça a changé ?
Oui.
Je ne sais pas depuis quand. Je pense qu'il n'y a pas eu un déclic. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait eu un déclic. Je pense qu'il y a eu une évolution. L'évolution, elle est propre à la société aussi. Hein. Ouais, c'est une évolution. Je pense à ce calendrier-là du Stade français rugby. Là. C'est un truc de malade. Ça a énormément fait bouger les lignes. Pas seulement pour le rugby et le sport masculin, mais également pour le sport féminin. C'est dire, vous voyez, on les met aussi en avant pour leur physique. Alors là, c'est même leur corps sexuel, quelque part, hein, parce qu'ils sont nus. Donc ça va même plus loin, quoi. Je dirais, à partir du moment où le sport masculin aussi a décidé d'aller exploiter cette partie-là, ça nous a mis les hommes et les femmes sur un plan d'égalité. Voilà. Maintenant, comme je dis, c'est pas... Nous, il ne faut pas non plus reculer complètement. Il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas dire, les hommes, ça y est, ils montrent, j'exagère, leur sexe. Et nous, les femmes, faut qu'on cache tout. Bah, y a peut-être un juste milieu à trouver, autant pour les hommes que pour les femmes. En tout cas, c'est mon avis. Voilà.
Et est-ce que la victoire en 2009 à l'Euro, qui a valu le surnom des braqueuses pour l'équipe de France de basket, selon vous, ça a été un tournant décisif qui a donné plus de visibilité dans les médias, etc., pour le basket féminin ?
Les résultats donnent de la visibilité automatiquement, ça c'est sûr. Quand on gagne le titre, le deuxième titre de Bourges en Euroleague, je suis interviewé à la fin du match et Richard Dacoury, le consultant télé à l'époque, me pose la question. Il me dit, bon alors Yannick, maintenant ça y est, c'est bon. Je dis, bah oui, ça y est, maintenant les médias, messieurs les médias, c'est pas un hasard à l'époque, messieurs les médias, ça y est, on a gagné deux fois, chose que personne n'avait jamais fait. Maintenant, vous pouvez parler de nous. Parce que j'entendais depuis des années, gagner des résultats, on parlera de vous. Puis là, on gagne. On gagne quelque chose qu'aucune équipe de sport collectif, tout sexe confondu, n'ait jamais gagné en France, puisque seul l'OM avait gagné une fois. Limoges, le CSP Limoges avait gagné une fois en basket, en foot, basket. Et nous, on est le seul club à l'avoir fait. Donc je me dis, ça y est, c'est bon, ils ont eu ce qu'ils veulent. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Encore une fois, c'est pas une question de déclic. Bon, c'est gagner. Moi, c'est ce que j'appelle gagner des parts de marché. Ben, il en faut toujours plus pour convaincre, pour essayer de débloquer. Et maintenant, quand on est dedans, on trouve que c'est jamais assez. Voilà. Donc, c'est des combats, mais dans le sens propre du terme, d'une vie. Bon, ben, c'est comme ça. Il faut, ouais, faut mettre une pierre à l'édifice d'un combat qu'on trouve juste.
Et justement, c'était une de mes questions. Quel était votre rapport au public, aux médias? Parce que là, vous aviez l'air d'être un peu taquine, justement, d'aller les chercher avec un peu de sarcasme. Quel était votre rapport avec les médias?
Ouais, j'ai vieilli. Bon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai aussi rencontré à l'époque l'ancien rédacteur-chef de l'équipe. D'accord, avec qui j'avais discuté de façon véhémente, comme je suis capable de le faire pour défendre le bifteck, et en disant je comprends pas, oui, il y a jamais une femme en une de l'équipe, c'est pas possible, on gagne ça et on gagnera jamais assez pour être en une de l'équipe. Et bon, c'est toujours un combat qu'on entend, hein. Je pense au hand, des choses comme ça, qu'on voit encore de nos jours. On s'aperçoit quand même qu'il y en a aussi. Et il m'avait à juste raison, remis à ma place en m'expliquant quand même que l'équipe n'était pas philanthropique, ils n'étaient pas là, c'était pas du service public, c'était une entreprise privée qui n'était pas non plus là pour faire que de perdre de l'argent. Et qu'à un moment donné, les statistiques montraient que quand c'était une femme qui était en une de l'équipe, ils vendaient moins de journaux que quand c'était des hommes. Et aussi, ben, il y avait beaucoup de foot parce qu'effectivement, ça faisait plus vendre que le reste du sport. Alors ça fait mal quand vous entendez ça. Mais il faut l'entendre. Et puis il faut aussi comprendre qu'il faut, dans les combats qu'on doit mener, c'est pas le sport féminin contre les médias, c'est pas le sport féminin contre le sport masculin, mais c'est aussi faire évoluer son produit quelque part. Et donc essayer, et moi c'est aussi mon travail au quotidien avec les clubs, de trouver des solutions pour faire mieux, pour faire différemment, de mieux, enfin, de s'adapter aussi à la demande. Il faut pas croire que c'est que la faute des médias si on passe pas. Il faut aussi trouver les moyens pour passer plus.
Et justement, c'est en tant que directrice générale de la Ligue féminine de basketball, c'est des combats que vous avez essayé de porter.
Oui. Alors maintenant, c'est plus des combats, ce sont des avancées. C'est essayer de travailler le produit pour qu'il soit plus vendable, plus visible, plus médiatique. Voilà, auprès des sponsors, pas seulement que des médias, mais aussi des sponsors et puis du grand public, parce que c'est aussi quand même avant tout pour ça qu'on fait. Hein.
Donc vous continuez à espérer une évolution du basketball féminin français.
Je l'espère pas. Je sais qu'elle y est, l'évolution. On trouve que quand on est dedans, qu'elle est pas assez rapide, mais elle y est. Donc il faut continuer. Bien sûr qu'il faut continuer.
Et avec du recul sur votre carrière, quel conseil donneriez-vous aux jeunes joueuses de basket ou aux jeunes joueuses dans le sport en général?
Alors, de façon beaucoup plus large, hein, je ne me mets pas sur la partie médiatique ou ce que je viens de dire, hein, on est bien d'accord. Moi, il n'y aurait qu'un seul conseil, c'est que surtout de ne pas arrêter les études, surtout de se préoccuper très tôt de son après-carrière. Voilà. Alors, quand je dis de ne pas arrêter les études, ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement faire des études. Mais par contre, il faut se préoccuper dans ces cas-là de son après-carrière. Pour deux raisons. D'un, parce que la carrière peut s'arrêter très tôt. Et si vous l'avez pas préparé, la déchéance arrive très vite. Et que si vous en occupez très tôt, ça vous permet aussi de l'étaler dans le temps. Et de vous permettre de mieux vivre l'après. Et le passage à l'après. ce qu'on appelle la petite mort pour les sportifs de très haut niveau, qui sont professionnels ou pas, parce que c'est l'investissement que vous faites qui est important. Et ce passage à la vie d'après, c'est quelque chose qui se prépare. Et quand on le prépare au quotidien, d'un, il est moins violent. De deux, il est plus efficace parce qu'il a été vraiment préparé. Et ça vous laisse le temps de mûrir, de voilà. Donc moi, si j'ai un seul conseil, c'est celui-là. Un seul conseil. C'est pas parce qu'on considère que 18 ans, 20 ans, on a un premier contrat pro que la vie, elle est finie. Enfin, la vie, elle est finie. On n'a pas à s'en préoccuper. C'est justement maintenant qu'on doit s'en préoccuper. Et pas à 28, 29, 30 ou 35 ans. C'est trop tard. C'est trop tard. Ça se prépare tôt, ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont énormément gardé dans le droit chemin tant que j'ai pas eu la tête sur les épaules. Et puis après, ça a été moi pour moi. Quand on me dit « Ah, t'as bien réussi », moi, je m'en suis quand même préoccupée. Alors, c'est vrai que j'ai eu après des opportunités, que la vie est faite de chance ou de malchance, mais il n'empêche que la chance, ça se provoque aussi, quoi. Même si c'est pour finir entraîneur dans une équipe de basket, hein, c'est des diplômes à passer, c'est une ouverture d'esprit à avoir. Moi, je suis allé aux États-Unis parce que j'ai voulu voir ce qui se passait ailleurs. J'ai voulu être entraîneur par un entraîneur russe parce que j'ai voulu essayer d'évoluer avec une ouverture d'esprit basket. Enfin, toutes ces choses-là, ça se provoque. Mm-hmm. Il faut pas se laisser porter. Et je crois que quand on fait ça, quand on est une sportive de haut niveau, quand on se préoccupe de ça, on est moins nombriliste sur son côté sportif. C'est-à-dire qu'on relativise, ça permet d'avoir un échappatoire, et puis on n'est pas en train de se dire « Ah là là, j'ai fait ça ce matin, ah là là, ça va me perturber pour l'entraînement d'après-midi. » On passe à autre chose, quoi. Et c'est ça aussi, c'est être capable d'avoir cette résilience. Et la vie d'après oblige à avoir la résilience sur la vie du moment. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Quelles sont les figures féminines dans le milieu sportif qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore ?
Moi, j'ai été très inspirée déjà par une personne qui s'appelle ma mère, parce que je crois que cette combativité, cette envie, cette niaque, moi, je la tiens de ma mère sans aucun doute. Alors, c'est pas une figure sportive renommée. Elle était professeure d'éducation physique pendant toute sa carrière dans un lycée hautement compliqué à Toulouse, vous voyez. Donc, voilà. Mais pour répondre plus précisément à votre question, moi, j'étais très, très, très fan de Steffi Graf, voilà. Je trouvais que c'était une athlète phénoménale. Je la trouvais superbe. Moi, j'ai fait du tennis, c'est un sport que j'aime beaucoup. Je la trouvais superbe, féline, sombre, classe, voilà. Et puis en plus, j'ai gagné, donc c'est toujours très stimulant. Après, j'ai suivi aussi la carrière de Nadia Comaneci, mais parce que j'ai fait de la gym. Et puis, une athlète que j'ai pu croiser lors des Jeux à Sydney, qui fait du triple saut, qui est assez connue du public français parce qu'elle a eu un compagnon français, qui s'appelle Heike Drechsler. J'étais très très fan, très très fan. Et je l'ai revue quand je suis allée à Rio, parce que j'étais consultante pour France Télévisions. Et j'étais juste à côté d'elle, j'étais mais comme une gamine, quoi. J'étais fan parce que je trouve que la perception que j'ai d'être sportif professionnel, c'est aussi il y a des obligations pour moi. Vous avez des obligations quand vous êtes sportif professionnel. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors après, les gens ne sont pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, c'est ma perception. D'être sportif professionnel, c'est une chance inouïe d'être payé pour faire normalement ce qui est notre passion. Mais ça entraîne des obligations. Les obligations, pour moi, c'est une image extérieure. On fait pas n'importe quoi. On est là quelque part au quotidien aussi pour la promotion de son sport. Quand je passe à Steffi Graf ou à Heike Drechsler, c'est vraiment pour moi des athlètes belles, quoi. Quand je dis belles, c'est des femmes épanouies qui s'assument, qui paraissent pas compliquées, qui sont pas je sais pas comment dire, voilà, qui sont des femmes normales, mais classes, qui envoient un message de pureté, de combativité, d'abnégation.
Et avec donc ce que vous disiez, une forme de responsabilité du modèle que l'on en incarne là récemment.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le terme que je cherchais. C'est la responsabilité que l'on a d'être un rôle modèle. Moi, les gens qui me disent, je suis pas payé pour être rôle modèle, je suis désolée. Moi, pour moi, ça fait partie du job.
Ce sont des figures de représentation très importantes. Par exemple, Vénus et Serena Williams, avec la carrière qu'elles ont eue et qu'elles ont encore aujourd'hui, elles ont ouvert des portes inespérées aussi.
Phénoménal. Bon, parfois, grâce à leurs partenaires, leurs sponsors, des choses comme ça. Mais vous pouvez pas juste dire « je suis un sportif professionnel » et vous en servir quand ça vous arrange, parfois pour gagner plus d'argent. Et d'un autre côté, pas considérer qu'il y a des obligations derrière. C'est pas possible. Enfin, moi, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Et je trouve que ces sportifs, effectivement, comme les Sir Williams, d'autres, il y en a plein d'autres, qui véhiculent ces images-là. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être formaté et neutre. J'ai horreur des sportifs qui sont langue de bois. Bien sûr que j'ai horreur de ça. Mais c'est vrai qu'ils doivent faire aussi attention. Il faut trouver un juste milieu. Mais il y a une responsabilité. Oui, je pense qu'en tant que sportif professionnel, il y a une responsabilité à avoir par rapport à l'image qu'on doit donner au grand public avant toute chose, aux médias certes derrière, mais aux gamins ou à la gamine qui vient vous voir, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que il y a un minimum à faire quand même.
Récemment, vous avez été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Vous avez reçu donc la décoration des mains du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
La reconnaissance de mon parcours, et quand je dis mon parcours, automatiquement, c'est pour ça que j'avais invité le président de la fédération, bien sûr, mais j'avais invité mon président à Bourges, hein, pour qu'il ait joué pendant 10 ans. J'avais invité Alain Jardel, qui a été mon entraîneur emblématique à mes débuts et à la fin en équipe de France. J'avais invité aussi le président de mon club à Mirande, où j'ai quand même passé 5 ans. Parce que, quelque part, quand je dis mon parcours, c'est la reconnaissance du basket féminin français, quelque part. Et c'était un honneur pour moi que ça soit le président de la République qui me la remette, parce que ça donne d'autant plus de reconnaissance à ce parcours-là. Bon, je le prends pas pour tout le monde, mais c'est quelque part dire, voilà, cette personne-là, elle a fait ça, l'investissement que j'ai eu en tant que basketteuse, l'investissement là que j'ai eu pour défendre le sport féminin, parce que c'est a priori une des raisons pour laquelle j'ai eu cette distinction. Et quelque part, c'est, à la fin de la fin, une reconnaissance du basket féminin français.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, que vous voulez rajouter, préciser
Je crois que ce qui est intéressant, dans moi, ce que je vis, c'est aussi de rencontrer des gens comme vous. Parce que c'est aussi grâce à vous, les gens de l'ombre, qui font que le sport féminin se développe. Ça ne veut pas dire que le combat n'est pas fini, mais ça veut dire que moi, je vois qu'il avance. Je crois qu'il y a des paliers, il y a des étapes. Là, on est en train de vivre, nous, en tant que femmes, une évolution phénoménale dans la société, hein. Phénoménale, quand même. Hein.
D'amorcer cette thématique.
Et la reconnaissance sur la Légion d'honneur, c'est pour ça que je l'accepte, ça. Parce que je considère que ça nous reconnaît, nous tous.
C'est un geste pour toutes les femmes en général.
Voilà, qui se sont investies dans l'avancée du sport féminin. Collectif tant qu'à faire, on va pas non plus j'ai pas gravi des montagnes seul ou avec du monde, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, si demain quelque part aussi ça fait la une de l'équipe le sport féminin, c'est parce qu'on s'est toutes aussi battues, pas que toutes, tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui s'investissent pour le sport féminin.
C'est comme vous dites, des paliers, amorcer une dynamique qui ne peut que évoluer dans les années à venir, on l'espère.
Oui, exactement. Mais ça évolue. Vous y penserez quand vous regarderez ça dans 20 ans.
Bien sûr. Merci en tout cas pour tout.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction de Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.